tout de suite un énervé en milieu hospitalier ce soir, mais avant de commencer, petit tour de table, un rituel pour caler les micros de chacun et de chacune. Je commence par vous, Michel Tsimaratos, vous êtes professeur de médecine, praticien, directeur de l'unité de néphrologie pédiatrique à l'hôpital de la Timone à Marseille et auteur de « Repenser l'hôpital, rendez-vous manqué et raison d'espérer » aux éditions Michelon. Ça vous va ?
Ça me va, mais je ne suis pas directeur.
Ah, vous n'êtes pas directeur.
Je suis chef de service.
Tout aussi bien. Maxime Gauthier, vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital Lariboisière.
C'est parfait, c'est mon métier.
Cynthia Fleury, vous êtes philosophe, fondatrice en 2016 d'une chaire de philosophie à l'Hôtel Dieu à Paris. Aujourd'hui, c'est à Sainte-Anne. Et vous venez de publier « Le soin est un humanisme » chez Gallimard.
Yo.
Parfait. Et Laurent Saint-Martin, vous êtes député La République En Marche du Val-de-Marne.
C'est correct.
Très bien, la présentation est faite. Générique. Et ce n'est pas un médicament, c'est un générique.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Rebonsoir, ou alors bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Ce soir, il y a urgence. En fait, ça a commencé en mars dernier, mouvement de grève des services d'urgence de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Puis le virus a pris au fil des semaines et à l'heure du vote au Parlement du plan santé 2022, eh bien les professionnels de santé mettent la pression. Mardi dernier, manifestation et une délégation au ministère de la Santé. Hier soir, visite surprise de la ministre Agnès Buzyn à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Alors, où en est la crise aux urgences et plus largement au sein de l'hôpital public ? Le plan santé 2022 répond-il ou pas aux enjeux du secteur hospitalier ? Et finalement, pour quelles raisons rien ne change depuis 30 ans ? Autant de questions que l'on s'est posées déjà avec Christophe Bourseiller, on a peu eu de réponses. Ce soir, ce sera l'émission intitulée « Hôpital, on tire sur une ambulance ?» C'est votre titre.
Oui.
Moi, j'avais préféré « Hôpital, il y a urgence ». Bref, un gros débat
facile.
Au sein de l'équipe du Nouveau Rendez-vous. Le NRV la suite. Allez, c'est parti.
France Inter, le Nouveau Rendez-vous, Laurent Goumard.
Christophe Bourseiller.
Franchement, Laurent, avec ce sujet-là, je suis un peu largué, pour vous dire la vérité, parce que dans cette histoire d'hôpital et d'urgence, ce dont nous parlons, c'est d'un immobilisme généralisé. Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. L'autre jour, dans le métro parisien, le chien agressif d'un homme ivre a mordu au sang plusieurs passagers. Mais c'est la vérité. Le métro s'est arrêté, les passagers ont appelé en vain sur les téléphones d'urgence de la station, et 20 minutes plus tard, l'homme ivre et son chien paradaient toujours sur le quai, tandis qu'un homme considérait sa main ensanglantée, sans que ni la police, ni les pompiers ne viennent. Finalement, le métro est reparti en abandonnant le blessé sur le quai. Vous voyez, Laurent, ça, c'est l'immobilisme. Et les médecins, les urgentistes, crient au secours pendant, mettons, 40 ans. Tout le monde les approuve, mais personne n'intervient. On laisse courir. Immobilisme. Et pendant ce temps, la santé en France se dégrade. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin du 20e siècle, les Anglais traversaient la Manche pour se faire soigner mieux et moins cher en France. Aujourd'hui, Capri, c'est fini et les Anglais se soignent à domicile. Alors pourquoi cette dégradation ? Pourquoi cette décadence ? Maxime Gauthier, vous êtes, si je puis dire, un urgentiste en colère. Qu'est-ce qui explique votre colère ?
Alors la colère, elle est assez facilement compréhensible quand on imagine que des soignants se fatiguent de soigner. Et le mouvement, comme vous l'avez expliqué, par des soignants qui sont infirmiers ou aides-soignants, c'est-à-dire la profession paramédicale, qui est une profession plus jeune, qui est moins bien formée. C'est 10 mois de formation pour un aide-soignant et 3 ans pour un infirmier, sur un salaire qui tourne aux alentours de 1 500-1 700 euros net par mois, avec, si vous voulez, une charge d'activité où ils bossent en 7h30 ou en 12h d'affilée, qui est vraiment comme un bloc de mise en pression. Ils courent en permanence après leur retard de prise en charge parce que il n'y a pas d'autre mot. Moi, sur des gardes comme cet hiver où il y a 50 patients en attente, j'arrive et l'attente, c'est 2h à 9h d'attente. 9h d'attente pour une dame de 90 ans qui a une infection sévère au niveau abdominal. Et ils crient leur détresse, mais on crie leur détresse et la détresse des urgences parce que le départ de l'interurgence, c'est de dire les revendications sont paramédicales, parce que en effet, les médecins sont un peu mieux lotis. On gagne plus, on a plus de formation, on n'a pas le même poids dans l'hôpital, on n'a pas les mêmes perspectives de carrière. Et donc, on les laisse devant pour dire, portez vos revendications, on vous soutient. Et maintenant qu'après plus de deux mois maintenant, de manifestations avec juste un brassard sur leur blouse, des affiches sur les murs, que finalement, les réponses ministérielles des 3 ou 4 allocutions de Madame la Ministre sont... Le problème, c'est juste une question de sécurité. j'ai pas de solution miracle. Le problème, c'est pas vraiment les conditions de travail. Ils finissent par monter en pression et dire, ben nous, on n'est pas écoutés, donc on va changer un petit peu de mode de revendication et on va se mettre en arrêt maladie. Et c'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises cette semaine, si j'avais pu les arrêter plus tôt, je les aurais arrêtés plus tôt. Et sauf qu'on ne peut pas arrêter un soignant quand on est médecin dans la même équipe. Mmh. Dans notre équipe, on est 200. Et quand on est 200, on travaille tous en commun, on partage le même quotidien. Moi, ça fait 5 ans que je travaille à la Riboisière, ça fait 10 ans que j'ai été interne, et je les ai vus tous un par un arriver, frais, plein d'idées, plein de motivation, avec vraiment cette vocation de soignant qui est, c'est chouette, et en plus, je vais peut-être apporter quelque chose à l'hôpital parce qu'il y a des difficultés, et donc je vais m'engager mentalement et physiquement au-delà de peut-être mon décret, et donc ils prennent des risques parce qu'ils vont... faire plus de choses que la normale, ils vont prendre beaucoup sur eux, ils vont passer leur temps à s'excuser de pas avoir pu soulager, pas avoir pu mettre un bassin pour que un patient puisse juste pisser. Enfin, c'est vraiment une course permanente. Et donc, je les ai vus un par un s'épuiser. Et en effet, vous l'avez dit, le constat, il est pas d'aujourd'hui. Et le problème, c'est pas que les urgences.
Mais ça a augmenté. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens? Parce que quand on dit 9 heures d'attente, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont plus voir le médecin, qui vont pas dans un centre médical, qui vont aux urgences pour faire soigner un bobo. C'est ça la réalité. Michel Tsimaratos, ça se passe comme ça aux urgences aujourd'hui?
Les urgences.
Il y a des cas graves et puis des cas finalement légers.
Oui, alors il y a de tout aux urgences. Les urgences, c'est, on devrait plutôt parler de soins non programmés. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas prévu d'aller chez le médecin, qui vont chez le médecin parce qu'ils ont quelque chose qui les dérange et pour lequel il faut qu'ils aient une réponse, mais que cette réponse n'est pas urgente. Il y a des gens qui ont quelque chose depuis longtemps. J'ai mal au genou depuis 3 semaines, mais ce soir, c'est devenu insupportable.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et puis, il y a des gens qui ont été agressés ou qui ont eu un accident et qui ont besoin d'avoir une réponse immédiate.
Alors, on dit quand même que le nombre de patients pris aux urgences est passé de 10 millions, ça c'était en 96, à 21 millions en 2016. Et les moyens n'ont pas suivi. Comment on laisse faire, alors, Laurent Saint-Martin?
Bon, d'abord, merci de m'avoir invité. Avant de venir ici, je me suis demandé est-ce que je bûche les éléments de langage classiques sur la loi ma santé 2022, ou est-ce que je viens à poil, comme on dit, et partager finalement ce que je ressens comme législateur sur le sujet des urgences et comment le comparer à d'autres politiques publiques et surtout d'autres services publics, notamment de proximité. Moi, ce qui me frappe quand je vois ces statistiques, c'est évidemment le constat que tout le monde se fait, c'est comment est-ce qu'on peut en arriver à un doublement de fréquentation aux urgences en 20 ans. La population n'a pas doublé, donc il y a un phénomène de fréquentation aux urgences qui doit s'expliquer autrement. Moi, je vais vous faire une confidence. De tous les services publics de proximité, j'ai à peu près une vision de ce qu'on pourrait faire pour le solutionner. À peu près. Parfois, on n'y arrive pas par faute de moyens, de courage politique, mais globalement, sur l'école, je sais faire. Globalement, sur comment faire des maisons de service au public, sur tous les sujets administratifs, on sait faire. C'est juste une question de mise en œuvre et de budget, pour dire les choses très, très, très trivialement. Sur le sujet de la santé, je n'ai pas la clé. Je n'ai pas la clé à long terme. Il y a des solutions qui sont présentes donc dans la loi que Madame Buzyn va présenter. Il y a aussi des sujets à court terme sur les conditions de travail qui peuvent être résolus. Mais sur la vraie problématique de comment on fait pour qu'il y ait moins de gens qui fréquentent les urgences, comme monsieur l'a justement dit, comment on fait pour bien séparer justement ces différentes problématiques, moi personnellement, je n'ai pas la solution et donc je ne sais pas bien légiférer. Voilà. Donc je crois que le constat, on le partage, mais il n'est pas encore assez abouti pour savoir dans quelle direction on va trouver des solutions. Et puis je voudrais juste, si vous me le permettez, partager une petite expérience, parce qu'elle date de cette semaine et je l'ai trouvée pertinente. Moi, je fais partie des gens qui vont bien, qui ont de la chance et qui vont jamais aux urgences. Et j'y suis allé, il se trouve, avant-hier, pour mon bébé de 4 mois, parce qu'il avait 39,5 de fièvre, et on dit que quand un bébé a 39,5 de fièvre, il faut aller aux urgences. Donc j'ai fait partie de ces gens qui y sont allés parce qu'on leur a dit d'y aller. Je vais à Bichat, très bon hôpital au demeurant, j'arrive et je vois beaucoup, beaucoup de monde, ça je m'y attendais, et ce qui me frappe, c'est que je vois beaucoup de monde qui ne sont pas en situation d'urgence. Quand on va jamais aux urgences, on s'imagine un truc en panique où les gens vont mal, où ça crie, etc.
Oui, où tous les gens ont été agressés.
Voilà, exactement. Et les gens pouvaient attendre, effectivement, trop longtemps par définition, mais les gens pouvaient attendre. Et ça, c'est la première chose qui m'a frappé. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui tourne pas tout à fait rond là-dedans. C'est que ces gens attendent et vont trop bien pour attendre à cet endroit-là. Même si je suis absolument pas qualifié pour le savoir. Et la deuxième chose importante, c'est que on m'a fait rentrer et je suis allé voir un infirmier et on m'a dit que bien plus tard, finalement, que les bébés n'étaient pas consultés à cet endroit-là. Et en fait, la personne de l'accueil, c'est pas sa faute, mais la personne de l'accueil n'est pas formée pour ça. Et là, je me suis dit quand même qu'il y avait toute une série de dysfonctionnements à l'hôpital qui
pour arriver à cette situation.
Ouais. Ah oui, qui était vraiment qui expliquait en fait une des causes dans laquelle on se trouvait.
Maxime Gontier.
Alors beaucoup de choses hein, ont été dites et il y a une part de vérité dans ce qui a été dit. Donc je rejoins mon collègue pédiatre sur le recours non programmé qui n'est pas forcément adapté dans certaines situations. Et attention, la pédiatrie, ça peut monter jusqu'à 80%, mais l'adulte, c'est bien évalué. Selon les études, c'est 15 à 25%. Et la Cour des comptes, c'est février 2019, c'est 15 à 20%.
15 à 20%,
okay. Ouais. Numéro 1. Numéro 2, l'urgence, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est seulement une urgence médicale, un service d'urgence? Non. Il y a l'urgence sociale, des gens qui viennent dormir avec nous. Okay. Il y a l'urgence psychiatrique, des gens qui, parce que la psychiatrie, je crois
on
que les budgets,
voilà, Cynthia Fleury, ouais.
Je serai ma collègue. La troisième chose, c'est comment ça se passe une filière de soins et comment est-ce qu'on éduque une population à la santé? Nous, ce qu'on dit, c'est on n'a pas besoin de 80 € pour réorienter des gens vers des structures de ville. Parce que la médecine de ville, elle aussi, s'est effondrée. Numerus clausus, inscription au conseil de l'ordre, enfin, ça va être une autre émission, mais. Donc, moi, quand je suis à l'accueil comme hier, médecin d'accueil à la Riboisière, un des plus gros services de Paris, 85 000 passages par an, je prends 2 minutes pour dire à un patient que ce n'est pas sa place d'être ici. Il le comprend. Je le réassure parce que souvent il arrive avec un stress qui est justifié ou pas, mais il est stressé. Donc c'est notre métier aussi. On réassure et on dit OK, bah, ça va aller. Pour l'histoire de l'enfant de monsieur le député, c'est vrai qu'on dit il y a des structures pédiatriques, il y a des structures adultes et il y a des structures mixtes. Et en même temps, un soignant à l'accueil, qu'il soit administratif ou infirmier, ne peut pas forcément prendre la responsabilité de dire allez aux urgences pédiatriques. Un enfant qui a 39,5 et qui a une grippe, ou un virus, ça va bien se passer, ses anticorps vont travailler, ça ira très bien. Ça, je laisse parler le pédiatre. Un enfant qui a 39,5, mais qui va être par manque de tonus, qui va être un petit peu marbré, celui-là, on va le garder chez les adultes et on va appeler le SAMU pédiatrique pour le faire partir. Donc, c'est pas seulement une question de dire on est formé ou pas, c'est aussi une question de système de soins et que nos hôpitaux ne sont pas tous polyvalents.
Cynthia Fleury.
Oui, bah, pour aller dans le même sens sur ce qu'est une urgence, ce sont souvent effectivement des urgences relatives. Il y a un taux d'évitabilité qu'on peut bien évidemment grandir et on peut y travailler. On peut filtrer les patients, on peut avoir une régulation bien meilleure dès l'entrée par tout un système de choses qui en fait ne concernent pas le soin, qui concernent pour libérer précisément du temps pour le soin et pour les urgences. Mais pour les personnes, si vous voulez, l'urgence, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a de fait un besoin de réassurance et il n'y a pas de réponse en face. Donc on a de fait un système d'urgence qui est à l'intérieur d'un maillage qui lui-même est déficient et qui récupère et qui encaisse les déficiences de tout ce qui est autour. Et encore heureux, si j'ose dire, parce que pour ma part, les urgences restent le dernier grand bastion d'une confiance envers l'institution. Et c'est tout sauf neutre. Donc c'est pour ça que c'est très important quand les soignants, dernier étage de la fusée, disent bah, « écoutez, c'est fini, voilà, on fait des arrêts ». Ils ne sont absolument pas réfractaires. Ils sont précisément dans le fait de sauver ce bastion de la confiance envers l'institution. Donc il y a des solutions. Nous, à la chaire de philosophie à l'hôpital, en ce moment, on a un pardonnez-moi pour le français, un proof of concept, une expérimentation qui est menée avec Pompidou, avec le professeur Juvin, précisément sur l'accès des personnes âgées qui attendent x9 le temps par rapport aux autres. Donc on va plus spécifiquement s'orienter là-dessus. Mais les solutions aujourd'hui, on commence quand même à cartographier les solutions. Et elles sont écosystémiques. Elles sont effectivement avec une médecine de ville à réintégrer. Ouais, elles sont effectivement avec des soins programmés à mettre sur le lieu des urgences. Parce que oui, les urgences font un rôle de régulation, de boussole. Oui, il y a des problématiques d'urgence psychiatrique. Oui, il y a des problématiques d'urgence sociale. Et il faut pouvoir les régler aussi. Donc on voit qu'on a comme ça. Et pourquoi je raconte ça? Parce que à la chaire de philosophie, on travaille bien sûr avec des philosophes, on travaille avec des ingénieurs, on travaille avec des designers, on travaille avec quantité d'autres humanités, si j'ose dire scientifiques, pour précisément penser la cartographie de nouveaux services. Et je parle même pas de la santé connectée, qui demain viendra aider considérablement aussi pour la question de la régulation des urgences.
On repart dans les urgences dans quelques instants, pas longtemps, hein, ça va durer que 3 minutes, pas 3 heures. I'm running out of
Backstabbers, when the chips were down, you just laughed at us. Now you about to feel the fucking wrath of aftermath, faggots. You gon' see us in our lab jackets and ask where the fuck we been. You can kiss my indecisive ass, crack maggots and the cracker's ass. Lil' Cracker Jack B, making whack ass backwards producers, I'm back, bastards. One more CD and then I'm packing up my bags. And as I'm leaving, I guarantee they'll scream, Trey, don't leave us like that, man, cause...
I need a doctor, le diagnostic est signé Dr Dre et Eminem. Allez, on repart tout de suite aux urgences.
Les sénateurs valident en première lecture le projet de loi santé. Le Sénat a introduit plusieurs nouvelles mesures de lutte contre les déserts médicaux.
Le nouveau rendez-vous.
Le modèle d'organisation n'est plus adapté ni à la demande ni à l'offre de soins.
C'est la réforme que je suis en train de faire. Elle vise à redonner du souffle à l'hôpital. Elle vise à mieux structurer la médecine libérale, la médecine de ville pour qu'elle réponde à l'accès aux soins des Français.
Laurent Goumard.
Elle vise à mieux répartir la tâche entre les soignants.
Sur France Inter.
Le NRV sous perfusion ce soir sur France Inter pour une émission autour du malaise à l'hôpital, de la grève des urgences et du plan santé 2022. On en parle avec nos invités, le professeur de médecine Michel Tsimaratos, le médecin urgentiste Maxime Gauthier, la philosophe Cynthia Fleury, le député de La République En Marche, Laurent Saint-Martin. Comment vous regardez-vous ce plan de santé 2022? Qu'est-ce que vous en attendez, Michel Tsimaratos?
Je le regarde avec beaucoup d'intérêt parce que il y a beaucoup d'attentes dans les hôpitaux, qu'on est à la fin d'une période d'une dizaine d'années où le mode de gestion des hôpitaux a complètement changé, où on est passé du budget global qui était en gros l'argent de poche, on vous donne de l'argent que vous devez dépenser correctement. Ça fait des gestionnaires des hôpitaux qui sont des économes qui savent comment bien dépenser. Et puis, il y a une dizaine d'années, on est passé à la tarification, à l'activité, c'est-à-dire où vous dépensez ce que vous avez gagné, c'est-à-dire qu'on vous paye ce que vous avez produit.
Ouais, c'est une toute autre logique, bien sûr. Ouais.
On a compris assez vite comment ça marche, mais on a vu que les structures étaient dimensionnées pour fonctionner sur le mode du budget global. Et quand on quitte le monde merveilleux de la subvention, c'est-à-dire où quand on a besoin, on demande, eh bien, parfois, on a du mal avec une structure à obtenir le volume financier dont on a besoin pour entretenir la structure et pour progresser. Parce qu'il y a dans les hôpitaux une marge énorme de progression.
Et vous dites aussi dans votre livre, vous dites il y a une tyrannie du court terme, c'est-à-dire qu'on met des petits cautères, on met des petits sparadraps, mais on n'arrive pas.
Pas de vision.
Là justement, vous avez un plan qui va jusqu'en 2022. C'est quelque chose de
sans aucun doute. Il faut remettre un petit peu de temps long dans la réflexion. Il faut être capable de prendre des risques, être capable de projeter au-delà d'un an, au-delà d'un exercice budgétaire, mais néanmoins. Aujourd'hui, tous les hôpitaux rédigent des EPRD, des établissements prévisionnels des recettes et des dépenses, qui sont des budgets annuels, qui sont projetés et qu'ils doivent réaliser. Et on sait à peu près 2 ans après ce qu'on a projeté, si on l'a réalisé, puisqu'on projette pour l'année d'après et qu'on fait la recette l'année encore d'après. Et donc, lorsque on est dans un marché ouvert où c'est l'offre qui crée la demande et où le volume total du financement peut augmenter selon le marché unique de l'offre et de la demande, bah, c'est une chose, on est dans l'économie. Et lorsqu'on est dans un...
Mais les malades deviennent des clients.
Donc ça fait longtemps qu'ils le sont.
Les malades sont devenus des patients et puis maintenant ils sont des usagers. Et si on les assimile à des clients, c'est plutôt dans l'idée d'avoir une relation client avec une dimension de qualité, puisqu'ils viennent consommer quelque chose qui est produit par des gens qui travaillent dans un hôpital.
Alors, sur un plan beaucoup plus pratique, Maxime Gontier, quels sont les points forts et les points faibles de ce plan prévisionnel pour 2022?
Écoutez, c'est une très bonne question. La vraie difficulté, si vous voulez, c'est que c'est compliqué de faire parfois la part des choses entre, évidemment, prévoir ce qui va se passer dans le futur, retravailler plusieurs décennies de difficultés, comprendre la complexité du mécanisme entre la médecine de ville, l'hôpital, puis l'aval de l'aval, c'est-à-dire où vont les gens, et en même temps avoir cette notion de dignité et de dire que l'humain, c'est compliqué de mettre un tarif dessus. Et en même temps, un ministère, voilà, n'a pas le choix. Donc, dès qu'on décide de mettre un budget, soit sur un acte, soit sur des lits, soit sur une vie, c'est très compliqué, en effet, de légiférer, comme disait Monsieur le député. Et la vraie difficulté, c'est qu'on aimerait. Alors, je vais parler un peu au nom de l'interurgence parce que c'est leur moment et c'est maintenant.
Ah oui, maintenant
c'est,
ça se joue.
Ouais. C'est maintenant. Quand on parle de mort évitable, la patiente qui est décédée, là, on l'a appris cette semaine, elle est morte d'une méningite. Elle arrive chez nous, je sais soigner une méningite. Il n'y a pas de problème. Il y a des recommandations, on sait faire de la réanimation, on sait aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, il n'y a aucun souci. Si c'est quelqu'un de ma famille qui, à la cinquantaine, vient aux urgences parce qu'il a une méningite et décède sur un brancard après 9 heures d'attente, je deviens complètement...
Oui, c'est une histoire réelle qui s'est passée.
Oui, absolument.
Oui, tout à fait.
Hein ? Et ça, c'est une situation qui a été très médiatisée, mais il y en a d'autres dans notre hôpital qui le sont moins. Et ça, c'est la caricature, c'est l'extrême, etc. Quand on parle de dignité, on peut aller au-delà de l'hôpital. Hein. Moi, je vais souvent dans les EHPAD avec mon petit camion du SAMU. Je peux vous parler aussi de la dignité à ce moment-là, du plateau repas à 1 euro.
Déjà une émission là-dessus, c'est on a vu justement la situation des EHPAD.
Ensuite, si vous voulez, il y a quand même un dogme qu'il faut changer, que j'ai pas vu apparaître dans le projet de loi, mais peut-être que je l'ai mal lu. Par exemple, moi je vous parle de Paris, il y a un hôpital Nord qui va être créé, qui va être la fusion de 2 gros hôpitaux, notamment l'hôpital Bichat et l'hôpital Beaujon, c'est pour dans les années à venir. Si vous prenez l'hôpital Beaujon et l'hôpital Bichat et que vous additionnez le nombre de lits, l'hôpital Nord, lui, aura 30% de lits en moins. Et donc ça, alors il y a beaucoup de raisons économiques derrière pour expliquer que finalement on travaille mieux avec moins de lits parce qu'on est plus efficient. Et donc c'est encore une fois réorganisation, efficience, deux termes qui sont pas très proches de l'humain et de la dignité. Et quand on parle d'un virage ambulatoire, ça a été donc ces dernières décennies de dire, bah, si vous voulez, vous avez un petit bobo, une petite fracture, une appendicite, on va vous faire venir le matin à 7h à Jeun et le soir à 9h ou à 18h, vous serez parti. Et donc, on supprime des lits dans les hôpitaux. Et en même temps, on augmente le nombre de patients par soignant. C'est-à-dire une infirmière dans les étages, elle a 13 patients à gérer. Et 13 patients donc plutôt lourds, puisque les plus légers sont en ambulatoire. Donc si vous voulez, un gamin de 5 ans, j'étais juste avant avec les enfants de CM2, il pose les bonnes questions, et on peut en même temps leur répondre simplement, si l'humain n'est pas mis en avant pour réformer, si la dignité des soins et des soignants et des soignés est pas mise en avant, et que c'est un rationnel économique, et en même temps on comprend la complexité du problème, je veux dire, il faut autour de la table...
Il ne faut pas nier la dimension économique, bien entendu.
Évidemment, je veux dire, on sera caricaturaux et caricaturés si on n'est que dans la critique, et qu'on n'est pas dans le constructif, et qu'on fait juste que de crier une souffrance. Mais en même temps, il faut savoir répondre de manière urgente à ce problème aujourd'hui.
Cynthia Fleury.
Oui, pour aller... parce que ce qui s'abat, entre guillemets, sur les urgences, ça s'est abattu sur la fonction publique et les institutions de la fonction publique. C'est ce qu'on appelle l'idéologie gestionnaire, qui en fait sépare la méthodologie d'évaluation de la finalité. Et donc, on se retrouve avec des espèces de taylorisme. On découpe le soin en actes, alors que une maladie, c'est quelque chose d'holistique, c'est plus compliqué, c'est du beaucoup de temps. Il y a, par exemple, le temps ne vaut rien.
La base non, de... parce que le temps coûte, enfin, voilà. Ne vaut rien, si, parce qu'il coûte cher.
Oui, mais donc on ne le, oui, mais on pourrait à un moment donné dire.
Tout à fait.
Voilà, à un moment donné, ça équivaut à la tarification d'un acte, parce que le temps, c'est la base de la clinique, c'est la base du diagnostic, c'est la base de l'adhésion et du consentement aux soins, etc. C'est la base, sans doute, de l'observance après. Donc, ça coûte moins cher à la sécu, parce qu'on va avoir des patients qui vont être plus efficaces, etc., etc. Donc, on voit très bien aujourd'hui que cette idéologie gestionnaire, elle est renvoyer en fait à ces grands manquements. Et ce qu'il faudrait aussi, puisque là c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui, c'est calculer le coût, si vous voulez, le coût humain, le coût financier du dysfonctionnement de cette idéologie gestionnaire, pour essayer de montrer que aujourd'hui on est rentré véritablement dans quelque chose de contre-productif.
Laurent Saint-Martin.
Moi, j'entends tout à fait ce qui vient d'être dit. L'idéologie gestionnaire. C'est aussi une conséquence d'un modèle qu'on ne sait pas financer. C'est aussi la conséquence d'un modèle qu'on ne sait pas assumer. Ou alors, en tout cas, il faut renverser le paradigme et fonctionner totalement autrement. Mais du coup, vous avez raison, ça crée un cercle vicieux. Et je pense, effectivement, que les dysfonctionnements sont plus coûteux,
ah oui,
probablement à terme, que si on n'avait pas du tout passé sur le mode de la gestion. Et donc, du coup, de la facturation à l'activité,
etc. Ce qui est frappant...
Ça, j'y crois volontiers. Mais il faut, c'est pas pour excuser les générations précédentes de gouvernants. Je dis juste qu'on y est passé dans ce chemin-là aussi par impasse budgétaire, nécessairement, et de modèle. Et comment on fait pour financer ce modèle-là? Je veux dire, aujourd'hui, en France, on va se faire soigner gratuitement. Voilà. Et on en est toujours là, et c'est très bien.
On dit c'est dommage, on se fait moins bien soigner aujourd'hui.
Et on se fait moins bien soigner. Enfin, moi, j'étais, excusez-moi de prendre toujours des exemples personnels, mais dans le soin, c'est peut-être ce qu'il y a de plus parlant. Mais j'étais au Canada il y a 18 mois. Aller aux urgences au Canada, c'est 1 600 $ pour s'asseoir dans la salle d'attente. Ça n'existe pas en France. Donc en France, tout n'est pas parfait, mais on est quand même dans le vrai sujet de la loi santé, c'est comment préserver ce système gratuit.
C'est l'exception.
Et juste un mot sur la temporalité, s'il vous plaît, parce que c'était très intéressant ce que disait monsieur. On a un problème sur le sujet de la santé, c'est que la réforme portée par Mme Buzyn, elle va prendre 10 ans à porter les fruits, notamment sur la fin du numerus clausus, recréer une nouvelle génération de médecins formés, la prévention, on parle beaucoup de prévention, mais ça prend des années et des années. Et puis le sujet, c'est le cas de le dire, urgent, de ce qui se passe à l'hôpital. Et le sujet budgétaire qui, lui, est annuel et voté chaque année, chaque automne à l'Assemblée nationale. Comment fait-on pour vivre avec cette dualité d'un budget annuel de transformation en profondeur d'un système de santé qui, lui, va prendre probablement 10 ans au strict minimum?
Il n'y a pas que des patients ce soir, il y a aussi des gens en pleine santé. Lee Fields, parrain du funk, dans le NRV.
Ooh.
Lee Fields dans le NRV, il sera en concert à Jazz Lavillette à Paris le 6 septembre. Le 6 septembre, donc on a le temps. Hein,
donc on va y aller quand même, parce que urgence. C'est remarquable. Vous aucune êtes d'accord, urgence. Laurent?
Ben, on a l'impression de faire de l'usinage et on n'est pas chez Ford ici, on est à l'hôpital.
On a trois revendications, elles sont simples, elles sont claires.
France Inter.
Des lits pour qu'on puisse coucher nos patients correctement, des effectifs pour qu'on continue de les prendre en charge et pour avoir ces effectifs de manière pérenne, une révision de nos salaires.
Je ne pense pas qu'une prime de 100, 200, 300 euros permettra de régler la difficulté aux urgences.
Son personnel soignant est épuisé, n'en peut plus, et elle nous propose de faire plus d'heures supplémentaires. Ça n'a pas de sens, elle est complètement à côté de la plaque.
Ce que je veux dire aux soignants aujourd'hui, c'est ne désespérez pas.
Laurent Goumard.
Le NRV en mode hospitalier ce soir, on y revient. Troisième acte du NRV sur ce sujet. Christophe Bourseiller.
Bah oui, il y a une chose qui me frappe, c'est que je me demande s'il n'y a pas en ce moment, vis-à-vis de ce qui se passe, vis-à-vis de l'hôpital, une forme de tabou. Parce que quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit qu'il n'y a eu que deux grandes réformes de la santé en 1789, Laurent, et en 1958. Ça fait pas beaucoup de réformes. Alors je lisais un texte de Patrick Bersch, qui est un grand monsieur de l'hôpital, qui disait « Le projet du gouvernement relève plus d'un aménagement courageux que d'une réforme d'une ampleur comparable à celle de 1958. Cynthia Fleury, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de tabous quand il s'agit de parler de l'hôpital? Est-ce qu'il n'y a pas la crainte de toucher à une sorte de grand monolithe auquel finalement on tient et qu'on ne veut pas ébranler?
Oui, enfin, alors, c'est évident qu'il y a des tabous par rapport à ça, mais notons tout de même que depuis quelques années, on file pas mal de coups de pied dans le monolithe. Donc, non, je pense qu'il y a quand même un vrai souci de croire que sur des institutions qui sont sur des biens communs, quand même, l'éducation, la santé, on peut appliquer des rationalismes économiques dessaisis de la finalité. Je pense que c'est une hérésie. Je pense que c'est une faute intellectuelle, indépendamment d'être une faute éthique, mais que c'est quand même d'abord une faute méthodologique. C'est ne rien comprendre à ce qu'est cette activité. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez des directeurs d'hôpitaux qui sont dessaisis, même s'ils disent le contraire, de la question du soin. Leur premier objectif, ça va être de faire en sorte d'arrêter de couper, je sais pas comment ça, les lits. Ça, c'est une finalité, si vous voulez, mais qui n'a rien à voir avec celle du soin. Donc, à un moment donné, il faut revenir aux soins. Il faut être bien évidemment dans une logique responsable, parce que nous sommes dans des logiques de rationnement, si j'ose dire. Rationnement au sens où, l'État est dans l'État qu'il est, etc., etc. Mais nous allons aussi vers un allongement de la vie. Nous allons vers du polypathologique, nous allons vers du chronique aussi, on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que le chronique transforme aussi la vie des urgences. Parce que
il y a... Le chronique, c'est-à-dire?
Le chronique, c'est des gens qui sont malades, entre guillemets, je sais que les médecins n'aiment pas que je dise ça, mais c'est incurable, en tout cas, oui, pendant un certain temps, long, parfois une vie, c'est incurable, c'est évolutif. Donc c'est rempli de et c'est sécularisé au sens où vous êtes malade, mais vous êtes tout le temps au travail, vous êtes tout le temps en train de faire autre chose, etc., etc. Et donc vous ne pouvez pas vivre la maladie comme une parenthèse et comme un tout qui se clôt. Et tiens, c'est réversible. Et tiens, enfin, je peux me dessaisir de ça. Et donc le rapport aux urgences, vous avez ça aussi, ce sont des patients. Les directeurs, les chefs de service des urgences expliquent très bien que c'est un certain type de patient, que ça pourrait aller avec eux beaucoup plus vite parce qu'on les connaît, parce que ceci, parce que cela. Donc ils peuvent être grâce demain à des outils à la fois localisés, anticipés, etc. Et en même temps, ils sont dans une certaine urgence parce qu'il y a une douleur trop forte à un moment donné. Il y a de l'aigu dans précisément le chronique, et tout ça fait que c'est d'autres manières de vivre les urgences. Sans parler d'un point qu'on oublie. C'est un monde différent, si vous voulez, le 21e siècle avec les années 50. C'est un monde qui va à 200 à l'heure autour. Et vous ne pouvez pas, tout d'un coup, dissocier le monde des urgences de l'autre monde dans lequel il est inséré, qui lui-même se vit de façon permanente comme une urgence. Et donc, vous avez un phénomène d'accélération qui touche tous les systèmes et qui fait que les personnes sont aussi elles sont dans un rétrécissement de leur vie, elles ne peuvent pas faire autrement que d'aller à un moment donné aussi dans un service pour régler, et elles sont prêtes à dire 9h, mais au moins en 9h, je fais tout le parcours du soin.
Maxime Gauthier, comment vous regardez-vous les propositions d'Agnès Buzyn par rapport à cette grève des urgences?
Alors je vais
essayer d'être... Parce qu'on a l'impression que c'est du foutage de gueule, en tout cas c'est comme ça qu'on entend les collègues.
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème, je pense, qui est un problème de courage politique. Je pense que c'est un moment d'être courageux.
Ce courage politique, ça serait s'appliquer à quoi ?
Sur beaucoup de choses, mais quand on parle de coûts, si vous voulez, c'est terrible parce que on peut comprendre les rationnels économiques, mais quand on parle de coûts humains, d'un coup, là, on sait plus de quoi on parle.
Oui, mais ça,
accepter des morts évitables ou accepter que des soignants lessivés au bout de 2 ans claquent la porte de l'hôpital public pour aller faire du libéral, c'est accepter la perte d'un projet de société. Donc le courage politique, c'est de dire, bon, cette difficulté, c'est en effet, comme le disait Cynthia, un projet de société parce que l'éducation, la justice et la santé, ok. Donc, il y a une vraie difficulté maintenant. Le courage politique, c'est de dire, dès à présent, chaque soignant qui manifeste sa souffrance, et dont les 3 revendications sont relativement claires, parce que ce qui est aussi très difficile, c'est qu'au-delà de culpabiliser des patients qui soi-disant n'ont rien à faire aux urgences, et en plus de culpabiliser des soignants parce qu'ils s'arrêtent, et en plus de les faire contrôler par un organisme privé, puis par la direction de l'hôpital, ce qui pour moi est juste insupportable, des gens qui ont moins de 30 ans, je prends juste une petite parenté, hein, qui se dépassent bien au-delà de leur métier, qui depuis 1 an et demi sont en lutte, en tout cas dans notre hôpital, qui se mettent en arrêt maladie pour dire « ça suffit ». Le lendemain, on avait 40 journalistes et la ministre qui parlait, et tous les journalistes et politiques en off m'ont dit « s'il n'y avait pas eu l'arrêt maladie, ça n'aurait pas bougé ». Ceux-là même ne sont pas défendus par ceux qui devraient les défendre. Moi, je prends la parole, j'ai 34 ans, je suis médecin de terrain, c'est super, mais ils se font contrôler par un texto, un recommandé, un courrier, puis un rappel par mail. C'est juste inadmissible, alors qu'ils ont eu, eux, le courage, peut-être, à ce moment-là, de ne pas mettre des gens en danger parce qu'ils le sont déjà, mais de faire bouger l'histoire. Donc les revendications d'interurgence, elles sont assez claires. Il faut plus de gens pour être humain, de 1. Et il y a des référentiels qui datent de 2011 du syndicat SAMU Urgence de France pour dire, selon un certain volume de passages, selon un certain nombre de lits d'hospitalisation, il faut un certain nombre de soignants. Deuxièmement, on peut pas payer 1500, 1600 euros des gens qui viennent donner de leur vie avec un engagement, encore une fois, qui est fort, qui est... L'histoire de la vocation, c'est vrai, c'est un engagement qui est physique parce qu'ils en prennent.
Donc une revendication de salariale, c'est la troisième.
Mais encore une fois,
et là vous serez, quand elle les taxe sur la prime, vous êtes entendu là-dessus.
Non mais quand elle les taxe sur la prime 300 euros, on peut comprendre que derrière Bercy ou autre ou l'Europe disent le budget, etc. C'est impossible. Il y a 1 200 000 fonctionnaires de l'hôpital public en France. On peut pas augmenter de 300 euros, c'est impossible. Mais comment est-ce qu'on peut juste essayer de faire travailler des intellectuels, des philosophes, des politologues, des historiens, ce que vous voulez, pour dire on va valoriser un métier, on va trouver un parcours de formation interne, on va faire des choses pour leur dire que leur métier est essentiel, est admirable. On va les aider pour trouver un logement. Enfin, il y a plein de solutions à porter. La dernière chose, et le troisième grand pilier, c'est cette histoire de l'Idaval. Moi, je suis désolé, hein, mais moi, ce qui me prend du temps, c'est pas de dire en 2 minutes à quelqu'un et de le réassurer qu'il a pas sa place chez nous. Moi, ce qui me prend du temps, c'est de passer 1 heure, 2 heures à chercher un lit dans un hôpital sur 12 hôpitaux différents de proximité.
Alors justement, je trouve qu'il y a des dysfonctionnements budgétaires indéniables. Là, je vois le témoignage d'un brancardier qui dit « le sol est plein de trous. Ça fait plus de 2 ans qu'on demande à l'encadrement qu'il nous les bouche, ça n'est toujours pas fait. Quand on fait passer les patients par ici, on est obligé de faire rouler les brancards lentement, mais les patients souffrent quand même. C'est invraisemblable. Alors, il y a un budget de la santé, il y a des trous dans le sol où on passe les brancards.
Là-dessus aussi, attention, j'étais au congrès urgence la semaine dernière, et donc le matin de la manifestation de l'interurgence devant la gare Montparnasse, la ministre annonce qu'elle entend et qu'il y a quelque chose qui l'insupporte, c'est que les structures d'urgence soient vétustes. Et franchement, quand on répond ça, on sait qu'on répond à côté de la plaque. Parce que c'est pas du tout ce que les soignants, regroupés en collectif avec une structuration remarquable, crient depuis plusieurs dizaines de jours. Ils ont jamais dit ça. Ils ont dit d'abord, pour être dans l'humain, il faut qu'on soit assez nombreux, il faut qu'on soit bien payé, il faut qu'on ait des lits. Donc forcément, si elle répond à côté de la plaque, et je finis là-dessus, demain matin, elle les reçoit avec d'autres membres des représentants de l'urgence. Attention aussi à ce que leur rôle ne soit pas que consultatif, mais soit un vrai rôle aussi décisionnaire.
Laurent Saint-Martin, ce sera le mot de la fin.
Ouais, juste à trop laisser cumuler les problèmes décennie après décennie, vous voyez bien que on n'arrive même pas en une émission à dresser l'exhaustivité des constats et des problématiques, parce que l'efficience, par exemple, on peut considérer que c'est un mot qui ne doit pas exister en politique de santé. On peut aussi, j'ai le cas dans ma circonscription, considérer que c'est un vrai sujet d'amélioration de l'offre. En allant chercher l'efficience, bon, j'ai le cas de l'hôpital Émile Roux, spécialiste de la gériatrie, et il y a effectivement des patients qui sont là et qui seraient beaucoup mieux en EHPAD si on faisait un parcours de soins beaucoup plus optimisé et du coup beaucoup plus efficient. Et on s'empêche, je pense, trop souvent d'avoir ces débats-là parce que, eh ben, on cumule les problèmes, pareil pour la vétusté. C'est pas pas parce que c'est pas le cœur du problème que si la ministre en parle, c'est pas un problème et donc qu'il n'y a pas une solution à apporter. Et la sensation que ça me donne, moi, c'est que quand la ministre ou quand n'importe qui, n'importe quel gouvernant va proposer une solution, par définition, elle sera à côté du problème majeur parce qu'il y en a peut-être trop et qu'on n'a jamais vraiment le temps de faire un constat global ensemble. Et ben c'est peut-être ça la vraie difficulté des juges.
Et ben ça sera complètement désespérant comme mot de
non,
la fin.
Non, c'est parce que je voulais...
Merci à vous. Le mot de la fin, non, vous l'avez trouvé peut-être
plus
optimiste.
Oui, j'ai un mot de la fin de Cynthia Christophe. Fleury que j'ai trouvé intéressant. Depuis quelques années, on file pas mal de coups de pied dans le monolithe.
Merci à vous tous. Merci Maxime Gauthier, merci Laurent Saint-Martin, Michel Tsimaratos. Je rappelle que votre livre « Repenser l'hôpital, rendez-vous manqué et raison d'espérer » apparu aux éditions Michelon et Cynthia Fleury. « Le soin est un humanisme », ça on l'aura bien compris, c'est aux éditions Gallimard. Eh bien, le NRV, c'est fini pour cette semaine. Vous le savez, cette année, c'est chaque jour dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et donc en podcast ou alors 22h. Il faut attendre 22h minuit à l'antenne. Oh, mais c'est bien aussi l'antenne. On reste en lien sur Facebook, Twitter, Instagram avec le hashtag NRVFI. Réalisation, signé Marion Lelay, Juliette Medeviel. Préparation, Virginie Rosic, Corinne Valente, Margot Page, Benoît Lagane, Laure Grand-Besançon, Gaëtan Lévy et Louise Achos. À la technique, Julien Dumont et Ludovic Asselot. Lundi, on se retrouve toutes et tous et on sera là avec ça.
Je vais faire interdire les pesticides les plus toxiques.
C'est ça. Tu crois ?
Jeu d'influence, une série politique pour Jean-Xavier de Lestrade. À ses côtés, Teresa Villaverde fait sa rétrospective d'un cinéma portugais tout contre son cœur. Et dans le NRV la suite, populisme, nationalisme, islamophobie, l'Inde, pays de tous les dangers, tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir et donc le bon week-end. Alors à lundi.